Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Cannibalisme, satanisme, kidnapping, meurtre, et traite de personnes. Jamais j'aurais cru retrouver tous ces termes dans une seule et même affaire, mais c'est ce qui est arrivé. Vous êtes pas prêts. Aujourd'hui, je vais vous parler des monstres de Ecatepec. Restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire que je connaissais pas et j'étais sincèrement choquée. Je pense que, comme j'ai dit, vous êtes pas prêts. C'est sûr que je vis plus au Mexique, donc je suis moins au courant là, des histoires qui se passent là-bas, puis c'est assez récent aussi, fait que ça doit être pourquoi j'en ai pas entendu parler. Mais je vous garantis que vous allez avoir des frissons. Je vous conseille de ne pas manger en regardant cette vidéo. Puis il y en a qui doivent être de même, genre en train de manger pendant que vous regardez cette vidéo. Écoutez, finissez de manger, puis mettez ça de côté, puis écoutez la vidéo. Ou faites l'un ou l'autre, ou faites les deux, puis peut-être que ces histoires-là vont pas vous dégoûter, mais moi, ça m'a dégoûtée. Puis je suis assez, comme on dit, mal écoeureuse, dédaigneuse, donc je peux pas manger en écoutant une chose de même. Podcast Over and Out. Pour commencer, l'affaire prend place en 2018 dans la municipalité de Ecatepec, dans la région de Mexico, dans l'État de Mexico, au Mexique. Et je crois qu'avant de continuer, c'est vraiment important de vous parler d'Ecatepec. C'était pas la première fois, pas du tout même, pas la première fois que j'entendais parler de cet endroit-là. En fait, quand on entend parler des gros dangers du Mexique, il s'agit souvent d'Ecatepec. C'est une municipalité qui est vraiment juste à côté de Mexico City, qui est une grosse ville. Mexico City, tout le monde connaît ça. Qui est assez safe, là. Mexico City, c'est pas tellement... Bon, ça dépend des coins, mais c'est pas vraiment dangereux d'aller là, faire du tourisme, même d'habiter là, même d'aller étudier là. Il y a vraiment pas de danger. Mais Ecatepec, c'est une autre histoire. C'est probablement la ville la plus dangereuse au Mexique. Ça doit être dans les villes les plus dangereuses en Amérique du Nord et possiblement dans le monde.
El INEGI publicó la encuesta de seguridad pública urbana. Ecatepec fue la ciudad donde los ciudadanos perciben que hay más inseguridad en el país.
El Estado de México se roban hasta las cruces. De verdad, ya no hay temor ni a Dios, hombre.
Il y a environ 2 millions d'habitants et c'est considéré comme la municipalité la plus pauvre au pays. Donc écoutez bien ça, de janvier à août 2016, il y a eu 1700 meurtres, 174 kidnappings et 1400 agressions sexuelles qui ont été dénoncées. Et ça, c'est ce qui a été dénoncé, c'est des meurtres qui ont été signalés, des disparitions, des kidnappings. Et juste imaginez au niveau des agressions sexuelles, on va pas toujours dénoncer à la police des agressions sexuelles. Fait qu'il y en a 1400 cette année-là qui ont été dénoncées. Imaginez le nombre d'agressions sexuelles qui n'ont pas été dénoncées. C'est vraiment, vraiment un endroit dangereux, c'est même considéré comme la capitale du féminicide. C'est tellement triste de lire ça. Ce qui était Ciudad Juárez il y a quelques années, une dizaine d'années environ, c'était la ville la plus dangereuse. Là, c'est vraiment rendu Ecatepec. Dans mon livre, gardez l'œil ouvert, il me semble que c'est dans le deuxième, j'ai justement un chapitre complet sur les féminicides à Ciudad Juárez. Vous allez capoter. Capoter, c'est fou tout ce que j'ai appris en faisant mes recherches pour ce chapitre. Et c'est aussi fou, sinon pire en ce moment, Ecatepec. Donc maintenant qu'on a un peu le contexte de la ville, de la municipalité, embarquons dans l'affaire. Le 6 septembre 2018, il y a la jeune Nancy Noémie Huitron Solorio, de 28 ans, qui a disparu avec sa fille. Nancy venait tout juste d'aller porter sa fille plus vieille à la garderie. Elle revenait avec son autre fille, la petite Valentina, de 2 mois, et elles ont disparu. Quand sa famille et ses voisins ont réalisé que ça faisait plusieurs heures qu'il n'y avait pas de nouvelles de Nancy, ils ont essayé de la contacter par WhatsApp, qui est vraiment le moyen de communication le plus utilisé au Mexique. Là, je sais qu'ils n'utilisent aucunement les messages textes. Je pense qu'en France ou en Belgique, c'est un peu pareil. Ici, WhatsApp n'est presque pas utilisé au Québec. Donc, ils ont essayé de la contacter par WhatsApp. Pas de réponse. Puis, ils ont aussi réalisé que sa photo de profil sur WhatsApp avait été supprimée. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que quelque chose qui clochait, quelque chose n'allait pas. Ils ont donc signalé sa disparition. Malheureusement, la famille de Nancy ont dû faire face à l'incompétence policière, comme on le voit beaucoup trop souvent au Mexique. Ils ont demandé à ce qu'on active l'alerte Amber, parce que là, il y a un bébé de 2 mois qui a disparu, qui s'est probablement fait kidnapper. Ils se sont fait répondre par la police que Valentina n'était probablement pas en danger parce qu'elle était avec sa mère, donc que l'alerte Amber était, dans ce cas-là, inutile. What the fuck? c'est fou, c'est la pire réflexion ever. Et là, je dis ça vraiment en connaissance de cause. T'sais, je veux pas faire de la discrimination, je veux pas juger quelque chose que je connais pas, mais au niveau de la police au Mexique, je connais ça. J'ai habité là 6 ans, fait que je sais c'est quoi la police au Mexique. Ils sont pas les mieux formés pour gérer des disparitions. Ils sont pas les mieux payés non plus. En fait, je pense que c'est l'un des jobs les moins bien payés au pays. Ce pourquoi il y a beaucoup de corruption et de l'incompétence. Parce qu'ils se font pas former, parce qu'ils sont pas bien payés, parce qu'ils s'en foutent. T'sais, plusieurs facteurs, puis c'est une grosse problématique, c'est pourquoi aussi il y a beaucoup de criminalité. Fait que c'est vraiment un gros problème, j'embarquerai pas nécessairement là-dedans, mais c'est quand même une situation qui existe. Bref, la fiche de disparition de Nancy et de sa fille Valentina a un peu circulé sur les médias sociaux, mais pas beaucoup. C'est tellement triste parce que c'est comme si les disparitions au Mexique étaient pas vraiment prises au sérieux parce qu'il y en a tellement. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas d'avis de disparition. En fait, il n'y a pas d'affiche de disparition qui est partagée sur les médias sociaux. Il n'y a pas d'article sur Internet. Fait que dans ce cas-ci, ils ont eu de la chance, vraiment entre gros guillemets, parce que leur avis de disparition a été partagé, mais c'est vraiment rare et ça n'a pas été partagé énormément. En fait, ce qu'on ignorait à ce moment-là, c'est qu'il y avait déjà une enquête, une grosse enquête qui avait été entamée par la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Bon, c'était une enquête nationale qui était mise en place. En fait, la disparition de Nancy ressemblait énormément à la disparition de 2 autres femmes qui avaient disparu dans les mêmes circonstances, au même endroit, à Ecatepec depuis le mois d'avril. Ça a eu lieu en septembre, donc depuis le mois d'avril, il y avait eu 2 autres disparitions qui étaient vraiment pareilles. Puis pourquoi on dit que c'était semblable? Parce qu'il s'agissait dans les 3 cas de belles jeunes femmes, pas trop vieilles, des mères monoparentales qui disparaissaient avant ou après le travail. Un autre fait que les enquêteurs avaient remarqué, c'est que dans les 3 situations, les 3 disparitions, ces femmes-là s'en allaient rencontrer une autre femme qui vendait des vêtements de bébé. Elle vendait des vêtements qui venaient des États-Unis, donc des vêtements de marque, pas très chers. C'est sûr que ça attirait ces femmes-là. Elle se présentait chez cette femme en question et pouf, elle se volatilisait. Grâce au registre d'appel des femmes disparues, la police a pu géolocaliser le dernier endroit où ces femmes avaient envoyé des textos ou avaient fait un appel. Et ça les a menés à la maison de cette femme en question qui vendait des vêtements de bébé. C'est là qu'ils sont arrivés devant le 530 rue Playa Tijuana, dans la colonie Jardines de Morelos, qui était habitée par un couple. Et bien vite, cette maison va être reconnue comme étant la maison des horreurs du Mexique. Donc parlons un peu de ce couple, parce que vous allez voir que c'est quelque chose. Et l'homme et la femme, ce sont deux personnes très... avec des lourds passés, avec beaucoup de problèmes, disons. Donc il s'agissait de Juan Carlos Hernandez, de 33 ans, et sa femme Patricia Martinez Bernal, de 38 ans, qui se sont rencontrés 10 ans plus tôt, en 2008, quand Patricia était serveuse dans un petit restaurant à Mexico et Juan Carlos était un client régulier. Très vite, ils ont aménagé ensemble à Ecatepec et ils ont eu 4 enfants. Au moment des faits, le couple avait comme principale source de revenus la vente de divers objets, donc des vêtements de bébé, des vêtements normaux, des téléphones cellulaires, des accessoires pour téléphones cellulaires et des parfums. Et aux yeux de tous, aux yeux des voisins, des gens qu'ils ont côtoyés, c'était vraiment un couple normal. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'était des gens très, très dérangés. Pour commencer, Juan Carlos, il a vraiment eu une enfance difficile. Il a été abusé par sa mère. Ça arrivait souvent que sa mère, par exemple, elle amenait des hommes à la maison et avait des relations sexuelles devant son fils qui était encore très jeune. Juan Carlos a aussi dit qu'il avait été abusé sexuellement par sa mère et sa babysitter, sa gardienne. À l'âge de 10 ans aussi, il a subi un traumatisme crânien très important, ce qui, selon lui, l'a rendu vraiment plus intelligent et meilleur à l'école. Mais tu sais, tout ça, ça, c'est ce qu'il dit. Mais il est vraiment reconnu comme étant un psychopathe. Là, il a été analysé par des psychiatres. Fait que je sais pas à quel point tout ça est vrai. Est-ce que c'est pour s'excuser de ses comportements? Est-ce que c'est vrai ces histoires d'abus qui l'ont complètement changé, qui l'ont dérangé? On sait pas. Puis je pense qu'on saura jamais, mais ça, c'est ce qu'il dit. Et du côté de Patricia, c'était aussi tragique et difficile. Patricia, elle aussi, venait d'une famille plus humble, disons, comme Juan Carlos. Elle avait aussi de la difficulté à l'école. À l'âge de 6 ans, Patricia s'est fait violer par un cousin et aussi s'est dit qu'elle a un QI inférieur à la moyenne. Fait qu'on peut voir là, que ni un ni l'autre sont partis dans la vie avec des bases solides. Pour revenir à Nancy Noémie, la femme disparue, elle connaissait un peu Patricia. Elle s'était côtoyée, c'était des femmes qui habitaient pas vraiment loin l'une de l'autre. Donc elle s'était déjà parlé, mais elle la connaissait plutôt comme étant Martha et non Patricia. On savait pas grand chose de cette Patricia slash Martha, sauf qu'elle avait 38 ans, qu'elle restait beaucoup dans la maison, elle sortait rarement et qu'elle travaillait dans un bar. Et Juan Carlos, lui, on sait qu'il était violent avec ses enfants, qui avait pas vraiment de job officiel, il restait aussi beaucoup à la maison. Mais c'est vraiment ça que les voisins, que les gens qui les connaissaient un peu disaient d'eux. D'ailleurs, c'est important de dire qu'une semaine après la disparition de Nancy Noémie, Juan Carlos a appelé la maman de Nancy pour lui dire qu'il était vraiment pas impliqué avec la disparition de sa fille, qu'elle pouvait aller à leur maison, au couple, puis s'assurer que sa fille était pas là. La mère connaissait un peu là, Juan Carlos et Patricia, à peine, mais elle les connaissait un peu, mais c'est tellement bizarre d'avoir ce genre d'appel. Tu sais, tu soupçonnes pas du tout la personne qui t'appelle pour te dire « je suis pas impliquée dans la disparition ». Et ça, c'est louche. Après cet appel vraiment bizarre, la mère de Nancy Noémie a appelé la police pour leur faire part de l'appel étrange qu'elle venait de recevoir. Et à partir de ce moment-là, la police a placé une surveillance policière face à ce couple-là. Donc, il les enquêtait et il les surveillait de loin. Donc, on se rappelle que Nancy a disparu le 6 septembre. C'est vraiment un mois plus tard que toute l'affaire va vite se développer. Le 4 octobre 2018, la police arrête enfin le couple, Juan Carlos et Patricia, qui est en train de transporter une poussette pour bébé. Quand ils ont regardé à l'intérieur de la poussette, c'est là qu'ils ont réalisé qu'en fait, il transportait des restes humains dans la poussette. En réalité, c'était le torse d'une femme qui s'en allait jeter à la poubelle. Quelle horreur! Donc, ils se sont fait arrêter et ils se sont fait amener à la prison de Ecatepec. Ça n'a pas été long que Juan Carlos a confessé ce qu'il a fait. Donc, il a admis les horreurs qu'il avait faites et aussi dit son...
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mode opérateur, comment il piégeait ces femmes-là, mais aussi où il s'est débarrassé des restes humains. Selon sa conjointe, Patricia Martinez, le couple aurait en tout assassiné 12 femmes depuis 2012, donc ça faisait 6 ans, là, sur une durée de 6 ans, il avait assassiné 12 femmes. Juan Carlos, lui, il dit qu'il aurait assassiné minimum 20 femmes. Toutefois, au moment de donner des noms, des détails, des informations, il a seulement pu donner le nom et des informations de 10 femmes. Donc, je pense qu'il se vantait qu'il en avait tué 20, mais peut-être que la réalité, c'était plutôt 10 femmes. Donc, j'imagine que la police s'attendait vraiment pas à ça. Il y avait devant eux un couple de vrais tueurs en série. 2018, là, ça fait pas si longtemps, puis il y a vraiment beaucoup moins de tueurs en série en ce moment qu'il y en avait dans les années 80. Puis au Mexique, il y en a pas tant que ça, des célèbres. Là. C'est sûr qu'il y en a, mais on dirait que là, je suis pas capable de penser à un nom. C'est comme le premier couple de tueurs en série assez reconnu au Mexique. Et ils ont un modus operandi assez troublant. Écoutez bien ça. Juan Carlos et Patricia attiraient les femmes chez eux avec un motif très précis. La plupart du temps, ils connaissaient déjà les femmes qui attiraient chez eux, et c'était Patricia qui choisissait les femmes. Rendu là, les victimes étaient prises au piège. Patricia les retenait pendant que Juan Carlos les violait. Et tout de suite après, il les assassinait soit en les étranglant ou en les décapitant. Et ensuite, il les disséquait et les démembrait. Et là, je crois que vous êtes pas prêts, là, c'est une des histoires les plus dégueulasses que j'ai lues. Pendant que Juan Carlos faisait tout ça, sa femme et ses enfants allaient dehors ou dans une autre pièce pour pas que les enfants assistent à tout ça. Juan Carlos, après les meurtres, prenait certaines parties du corps ou même de la graisse humaine et Patricia les cuisinait pour que Juan Carlos et elle les mangent. En fait, il aurait cuisiné plusieurs plats typiques, ça c'est quand même fou, des tamales, des pozoles, puis il mettait la viande à l'intérieur. Fait que c'était pas juste genre « je mange la viande par cannibalisme », ben oui, c'est ça, mais les apprêtait. Ce qui rend ça, je sais pas si moins dégueulasse, plus dégueulasse, mais c'est dégueulasse tout court. Aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait certaines parties en petits morceaux pour les donner à manger à leurs chiens. Sinon, il y avait aussi d'autres parties comme le cœur ou d'autres organes qui étaient placés dans des récipients d'alcool pour comme les conserver, et il les offrait à la Santa Muerte, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'ai une vidéo de 10 minutes là, sur le sujet. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Si vous voulez savoir qu'est-ce que la Santa Muerte, c'est vraiment fascinant. Fait qu'il les offrait à la Santa Muerte. Et en plus de ça, ben, selon Patricia, Juan Carlos aurait même pratiqué de la nécrophilie avec au moins un des corps. Sinon, le reste des parties du corps étaient conservées dans leur congélateur où ils s'en sont débarrassés de d'autres en les jetant dans des terrains abandonnés. Apparemment aussi qu'ils auraient même vendu quelques ossements à des gens sur Internet pour qu'eux-mêmes, à leur tour, ils les offrent à la Santa Muerte. Là, juste pour vous le dire, ceux qui vont pas vérifier la vidéo, la Santa Muerte, c'est comme la scène de la mort. Puis apparemment que tu vas demander des vœux, des souhaits à cette Santa Muerte, puis tu vas... Il y en a qui vont faire, entre guillemets, des sacrifices humains ou offrir des parties du corps ou comme des choses comme ça pour obtenir ce désir, ce souhait. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, puis ça, c'est souvent la légende, mais en réalité, je pense pas que ça soit ça réellement qui est fait. Mais bref, allez voir la vidéo. Et là, écoutez bien l'extrait de l'arrestation de Carlos. Il s'est fait rencontrer par un docteur tout de suite quand il s'est fait arrêter. Et on a un extrait de son interview. C'est complètement dégueulasse. Ceux qui m'écoutent par audio, podcast, je vous invite à aller voir cet extrait sur YouTube parce que je vais mettre des sous-titres.
Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por mí. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
¿Por la voz, por Dios o por...?
Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo, no es de porquería. Yo estoy completamente sano y bien.
Ouf! Ben en gros, il insulte vraiment les femmes. Il dit qu'il aime mieux donner les parties du corps à son chien plutôt que les nourrir de d'autres choses. Aussi, ben, tu sais, c'est ça, il insulte beaucoup les femmes. On voit qu'il y a une haine des femmes à cause de ce que sa mère lui a fait subir, selon lui. Fait que ça, en gros, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, je veux juste dire, il y a une genre de controverse par rapport à cette vidéo-là, parce que une semaine après l'interrogatoire avec Juan Carlos, la vidéo a été publiée sur les médias sociaux. Elle a comme été leaked. Je sais pas comment dire ça en vrai en français, mais elle a été publiée sans l'accord, en fait, de manière illégale. Ce qui est quand même fou parce que c'est sûr que c'est quelqu'un de la gang. T'sais, est-ce que c'est un policier? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est le psychiatre qui l'interviewait? Mais c'est dégueulasse, en fait. Ça va vraiment à l'encontre des droits humains. Pour plusieurs raisons, là, surtout pour la raison de la confidentialité. Donc le public n'aurait pas dû avoir accès à ça, mais aussi, à ce stade-ci, on sait pas s'il est coupable. Il a pas été reconnu coupable. Il est encore innocent aux yeux de la justice. Oui, ce qu'il fait, c'est dégueulasse. Puis tu sais, tu te dis, OK, pourquoi il aurait le droit à la confidentialité quand il dit tout? Ces cochonneries-là, mais tu sais, juste au niveau légal et justice, moi je suis vraiment pas d'accord à ce que cet interrogatoire-là ait été diffusé. Et aussi, d'un autre côté, ça aurait vraiment pu nuire au dossier des procureurs. Donc pour foutre le gars en prison, ben on veut que les procureurs aient un bon dossier, pas un dossier, pas un interrogatoire que des millions de personnes ont vu. Mais aussi, les victimes à ce stade-ci n'étaient pas encore identifiées. Fait que, imagine là que toi, t'es un parent de victime, ta fille est disparue, mais tu sais pas encore qu'elle a été assassinée, surtout pas par ce creep-là. Puis tu reçois cette vidéo-là, tu vois passer cette dégueulasserie-là sur Facebook, genre, puis tu vois ça. C'est tellement un manque de respect pour tout le monde impliqué, là. Et c'est fou parce que ça arrive tellement souvent au Mexique. Là, je veux juste dire une petite anecdote en lien avec ça. Quand j'habitais au Mexique, à Monterrey, précisément à Monterrey, il y avait eu une tuerie vraiment triste dans une école primaire ou secondaire, mais il me semble que c'était primaire, puis c'était un jeune, un enfant qui est arrivé en classe avec un gun, avec un fusil dans son sac à dos. Il avait juste sorti en classe, puis il avait tué d'autres enfants, puis la professeure. C'est arrivé pendant que j'étais prof, fait qu'on était vraiment paranoïaque à ce moment-là. Puis il y avait des photos des enfants tués que le monde s'envoyait sur WhatsApp. Je me rappelle, j'avais reçu ça, puis j'étais comme, mais non, c'est fake, là, c'est impossible, on voit genre le cerveau de l'enfant qui a été tué, là, ça, c'est impossible. Puis non, c'était les photos, les réelles photos. Fait que c'est qui a leaké ça? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est d'autres enfants? C'est dégueulasse. Puis dans les deux cas, là, dans le cas de Juan Carlos et la tuerie de Monterrey, dans les deux cas, ils n'ont jamais pu identifier les responsables d'avoir publié ces photos-là. Pour revenir aux victimes, malheureusement, on n'a pas tous leurs noms. Ça n'a pas été diffusé ou je n'ai pas trouvé l'information. Puis ça, c'est triste, je veux jamais parler du tueur plus des, vi- victimes, mais je vais en parler un peu de quelques-unes. Il y a eu Arlette Samantha Holguín Hernández de 22 ans qui a disparu le 25 avril 2018. C'était une mère de 3 enfants et ça faisait près de 2 ans qu'elle vivait pas très loin de la demeure de Juan Carlos et Patricia. Il y avait aussi Evelyn Rojas Matus de 29 ans qui a disparu le 26 juillet. Elle a disparu après être allée acheter des vêtements pour ses enfants. C'est super triste. Un autre truc qui est complètement fou, c'est que la fille de Nancy Noémie, donc la petite Valentina de 2 mois, a pu être sauvée. En fait, Valentina avait été vendue pour 15 000 pesos. Ça, ça fait environ 1200 dollars canadiens. Elle avait été vendue à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont pu la récupérer et maintenant, elle est saine et sauve, heureusement. Le 1er octobre 2019, Juan Carlos et Patricia ont chacun reçu une peine de 327 ans de prison pour 8 charges de meurtre et autres crimes comme traite de personnes et outrage à un cadavre. Donc clairement, chacun d'eux va passer le reste de leur vie en prison, puis c'est sûr qu'ils seront... Ben, dans ma tête, ils seront pas libérés parce que le Mexique les déteste, autant la police, les avocats, tout le monde les déteste, puis ils veulent vraiment pas qu'ils soient libérés. Bien sûr, les deux ont été longuement étudiés, analysés par des psychiatres parce que c'est rare qu'on fait face à des tueurs, à des situations aussi terribles. Apparemment que Juan Carlos souffre de troubles de la personnalité, possiblement causés par 3 antécédents, donc soit le traumatisme crânien qu'il a souffert quand il avait 10 ans, aussi le fait qu'il ait vécu de l'abus physique par sa mère, et aussi ça peut être dû à de la consommation de cocaïne quand il était jeune. Il souffre aussi d'hallucinations visuelles, donc pendant l'une des consultations, par exemple, il voyait un chien dans la pièce alors qu'il n'en avait pas.
Mais non, je ne suis pas loco, mais je le vois. Ahí está. Quand un cible où je travaillais, patron, otra vez, voy a traer agüita para mi perrito. No, ni me diga eso porque en Chile yo estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No, me molesta que me traten de decir güey, porque mi cabeza no da para eso. Yo vi a ese pinche perro negro.
Aussi, selon ses dires, Juan Carlos avait des pulsions meurtrières incontrôlables et il réussissait juste à se satisfaire un peu quand il tuait. Donc, il y avait genre un gros mal de tête apparemment qui partait quand il assassinait des femmes. Il a aussi dit qu'il avait un besoin vital de consommer du sang humain à chaque 3 mois et qu'une partie de lui était un démon. Il a aussi comparé sa relation avec Patricia à 2 lions, donc il disait qu'elle, c'était la lionne qui lui amenait de la nourriture à la maison. Puis il a dit qu'il y avait aucun remords, puis même dans son interrogatoire, il a dit clairement que s'il était libéré, il allait recommencer sans aucun doute. Patricia, quant à elle, a été diagnostiquée avec une intelligence limitée et que possiblement qu'elle aurait fait tout ça pour un peu garder son partenaire pour pas qu'il la laisse. Selon ses dires à elle, encore une fois, elle aurait tué elle-même 2 femmes et elle le faisait dans un but moral, parce que selon elle, ces 2 femmes, elles ne prenaient pas soin de leur enfant en leur privant de la présence d'un père, parce que je vous rappelle qu'ils tuaient surtout des mères monoparentales, donc pour elle, c'était comme impensable que les enfants n'aient pas de père, donc elle décidait de les tuer, ce qui n'a aucun sens. Donc voilà pour cette histoire, je sais que c'est pas super long, mais je voulais quand même vous en faire part parce que c'est une histoire très très choquante, puis bon, je fais du true crime, faut que j'en parle. C'est tellement triste parce que oui, il y a eu plusieurs disparitions, meurtres de femmes à cause de ces tueurs en série, mais la grosse, fucking grosse majorité des femmes qui disparaissent puis qui sont assassinées au Mexique, c'est des féminicides, dans le sens que c'est pas fait par des tueurs en série, c'est fait par des hommes random, des inconnus, ou de la violence conjugale par leur mari, leur père, leur oncle. Fait que c'est ça qui est le plus triste. Tu sais, je parle d'un cas isolé, mais la plupart des meurtres puis des disparitions au Mexique, c'est pas fait par des tueurs en série, vraiment pas même. Donc voilà, je vais vous voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert, de pas faire confiance trop à ses voisins et barrez vos portes. Over and out.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.